Et on démarre avec un podcast qui défend l'idée, je cite, qu'on peut être spécialiste de rien et s'intéresser à tout. Toutes les deux semaines, Culture 2000, c'est le titre, s'intéresse donc à des sujets historiques, géographiques, politiques, culturels, comme le prouve ce générique.
Les Français, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné immédiatement.
Depuis 2018, on y cause donc avec décontraction et en équipe de Frida Kahlo, de football, des punks, de Cléopâtre, d'histoire du féminisme, de l'Afrique des Grands Lacs, des Gaulois, du Ricard, ou tout récemment de l'histoire du cinéma avec notre Renan Cro National, ou encore un épisode sur la Chine impériale en commençant par le Grand 1.
Alors on attaque donc une longue histoire de 40 siècles. Bon, on débat sur les 40 siècles, c'est pas forcément ça. On imagine qu'il va se passer pas mal de choses, mais on peut quand même essayer de se raccrocher à quelque chose qui changera un petit peu moins que l'histoire, même si c'est lié. C'est la géographie de la Chine, on est où à peu près?
On se situe à l'est de l'Asie, donc... ce qu'on appelle en fait, ce qui va être appelé ensuite l'extrême-orient par rapport à l'Europe, donc on a et où on trouve plusieurs foyers de population qui sont très anciens pour une raison assez simple, c'est qu'on a finalement un territoire assez favorable à l'établissement de population avec de nombreux fleuves, des climats variés et très favorables à l'agriculture, notamment au départ on pense au riz, mais le riz va arriver finalement plus tard, mais c'est d'abord la culture du blé et du millet au nord. Ouais. Et donc on va avoir des populations qui se sédentarisent très rapidement et qui ne vont
parce que c'est fertile.
Voilà, qui c'est fertile et puis qui vont pas trop souffrir de la famine, donc une population qui grossit vite et qui devient un des principaux foyers de peuplement au monde.
De quoi briller en société et se cultiver en toute décontraction, c'est un podcast Fréquence Moderne. À noter que la chouette petite équipe de Culture 2000 a publié un livre ludique et intelligent, comme les jeunes Nathan, L'essentiel du 20e, le livre pour te faire aimer l'histoire.
Et les plus petits, ils pourront apprendre l'histoire aussi, puisqu'une toute nouvelle tournée des Odyssées podcast maison signée Laure Grand Besançon vient d'être mise en ligne, non?
C'est pas pour moi. C'est vraiment pour les vrais enfants, Antoine. Ça suffit. Les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents consentants vont encore pouvoir se plonger dans les aventures des grandes figures de l'histoire. Au menu de ces épisodes de Noël, Sitting Bull, le dernier indien libre des plaines, Lady Stanhope, une aventurière dans le désert du Liban, Frida Kahlo et un certain Molière dont je vous laisse identifier la voix.
C'est alors que, catastrophe, le prince de Conti les lâche. Sans protecteur, que va-t-il arriver à la troupe de Molière? Notre homme, heureusement, a plus d'un tour dans son sac. Il décide de faire un petit voyage. À peine de retour, il réunit ses camarades.
Mes amis, je reviens de Paris où il faisait un temps... Mais alors, un temps infect. Alors ça, franchement, on a beau dire Paris c'est beau, mais il pleut.
Allez, Molière, abrège, on n'en peut plus, là.
Bon, comme je vous le disais, je rentre de Paris avec une très grande nouvelle. Nous avons un nouveau protecteur. Nous sommes désormais la troupe de Philippe d'Orléans, frère unique de Sa Majesté le Roi. Nous jouerons au théâtre du Petit Bourbon.
Oui, c'est Denis Podalydès de la Comédie Française qui incarne Molière dans les Odyssées. C'est donc à mettre dans toutes les oreilles et dans les plus brefs délais. Et c'est un podcast France Inter.
Et on termine cette sélection par un billet d'humeur sur les mauvais usages de la langue française.
Et autres tics de langage répandus dans les podcasts, à la radio ou à la télé. Le titre de ce programme au format court, c'est « Je donne ma langue ». On le doit à un certain Walter Proof. Et on s'attaque aujourd'hui à « Par contre ».
Il n'y a pas pour l'instant de projet de délocaliser à Mumbai la finale de la Coupe de la Ligue. Mais par contre, on peut imaginer tout à fait un trophée des champions en Inde.
Ah, alors ça c'est un débat, hein. Ah, ah. Est-ce qu'on a le droit de dire « par contre » ? Oui, on t'a sans doute déjà dit ça, hein. On dit pas « par contre », on dit « en revanche ».
Les Parisiens du Paris FC se sont bien repris. En revanche, le Red Star a été battu 2-1 face au Gazélec Ajaccio.
Oui, mais pourquoi ? Et est-ce que c'est si vrai ? Bon, pour le savoir, on va remonter dans le temps. Ouais, t'as vu, je fais même les effets spéciaux, je te gâte. La première utilisation attestée de « par contre » remonte au XVIe siècle, sous la plume de Jean Calvin. Ouais, le Calvin théologien, hein, l'un des fondateurs du protestantisme. Et Calvin, il dit « par contre ». Voilà, et tout le monde s'en fout pendant à peu près 2 siècles. Et puis arrive Voltaire. Et Voltaire, c'était un chieur quand même, faut bien le dire. Voltaire, il dit comme ça, « Par contre, on peut l'utiliser dans le langage commercial si on veut, mais en littérature, c'est moche. »
Par contre, ne comptez pas sur moi pour tout spoiler. En revanche, si vous voulez la suite, je donne ma langue, c'est dispo sur toutes les applis.